Est-ce que le fait de me servir du français m'ouvre le monde, me ferme le monde, m'appauvrit, m'enrichit? De quelle manière elle m'appauvrit? De quelle manière elle m'enrichit? J'ai encore parlé d'un rendez-vous donné du recevoir. Bon, j'accepte les termes de ce rendez-vous.
Le rendez-vous du donner et du recevoir évoqué ici par Chikayom Tamsi sera le fil conducteur de cette émission où vous entendrez la voix de ce poète, romancier et dramaturge congolais, Gérald Félix Tshikaya, dit Tamsi, celui qui parle au nom de son pays, a écrit tout en français, tout en étant de culture bantoue. Et c'est dans ce qu'il appelle un métissage né de l'éducation et de la colonisation qu'il a conçu son œuvre. Et ces mots, cette expérience éclaire encore aujourd'hui cette question du bilinguisme de l'Afrique francophone. Le français, apprendre en français, lire, voir des œuvres en français, c'est pour l'essentiel l'offre que proposent un peu partout dans le monde les instituts français. Mais en ces temps de pandémie, il faut bien innover, se réinventer, s'adapter. Bonjour Patrick Giraudot.
Bonjour Pascal.
Vous êtes directeur de l'Institut français du Mali. Alors un mot sur la situation de la pandémie, des ouvertures-fermetures. La situation semble à peu près sous contrôle?
La situation est sous contrôle, c'est fermé, donc c'est pas très compliqué d'être sous contrôle. On est fermé comme la quasi-totalité des instituts, mais on n'a pas renoncé à la programmation. L'objectif était à la fois de maintenir notre relation et contact au public, de maintenir une économie de rémunération des équipes artistiques, et puis d'alimenter Culture Tech, qui est un outil de l'Institut français, qui permet d'avoir 380 000 ressources disponibles par le net, mais hélas, il y a assez peu de ressources africaines contemporaines immédiates. Donc on s'est assigné au Mali la responsabilité de numériser des œuvres en train de se faire pour être en ligne sur Culture Tech. Donc l'objectif de cette programmation redéployée, c'est de produire en fait des œuvres radiophoniques et de les inventorier sur Culture Tech.
Oui, donc vous avez basculé dans le numérique et dans le virtuel avec Culture Tech, mais aussi en devenant producteur de contenu.
Oui, tout à fait. Tout ce qu'on met sur Culture Tech sont des contenus qui n'existaient pas. Par exemple, on avait en février la production d'une pièce de théâtre Kalash, et cette pièce a été répétée. La première devait avoir lieu en avril à l'Institut français. Comme on n'a pas pu faire la première, une version radiophonique a été faite avec la radio Mikado qui la diffuse en plusieurs épisodes jusqu'au 15 juin prochain. Donc il y a un épisode différent chaque semaine, et à l'issue de la diffusion de l'épisode sur l'antenne de Mikado FM, l'enregistrement part dans le fond de Culture Tech, fond Mali.
Oui, l'intelligence de votre projet, Patrick Giraudot, c'est justement d'avoir imaginé de travailler avec les médias locaux en relais. C'était pas forcément évident, c'est pas évident dans tous les pays.
Je sais pas, ça s'est fait naturellement. Il y a plusieurs médias, hein. Il y a Mandé TV qui est une télé très engagée sur la question des femmes notamment, et aussi des artistes qui a beaucoup de rendez-vous qui s'appelle le Rendez-vous Beaux-Arts. Donc ça se passe très bien. On a fait la semaine dernière un tournage d'une installation dans l'espace public dans le quartier de Kalabankoura et de Ibrahim Kébé, un jeune sculpteur. Donc on a fait une installation dans l'espace public et un film autour de ce travail. Donc ça, c'est avec Mandé TV. On a également des partenariats avec Joliba, qui est une radio très engagée sur la question des femmes. Le directeur de Joliba est également le coordinateur du Musée de la Femme. Donc on va produire le mois prochain, fin juin, début juillet, une exposition dans l'espace public autour d'une expo photo et puis des textes dont Bakary Koné, un jeune poète, s'est fait l'écrivain public. Il est allé recueillir des paroles de femmes. D'ailleurs, le projet s'appelle Moussokan, qui veut dire paroles de femmes. Et ces paroles de femmes ont été donc imprimées sur des grandes bâches avec des photos de deux photographes maliens qui sont connus puisqu'ils sont régulièrement invités dans le cadre de la Biennale de la photo, c'est King et puis Sédou Camara. Cette exposition aura lieu dans l'espace public et parallèlement, on va faire interpréter, je fais une commande de lecture publique des textes de littéraires qui ont donc été écrits par Bakary Koné avec ses femmes, et on va commander une lecture de ces textes avec deux comédiennes qui seront diffusées sur la radio Joliba. Donc il n'y a pas que les radios, il y a aussi des lieux dans lesquels il est possible de faire des manifestations dans l'espace public.
Mais en utilisant le média radio ou le média télé, vous luttez ou vous compensez plutôt aussi un peu la fracture numérique, parce que j'imagine que tout Malien n'a pas forcément accès 24h/24 à Culture Tech et n'a pas le net à domicile.
Le problème de Culture Tech, c'est un problème structurel que d'ailleurs l'Institut français Paris est en train de résoudre, travaille là-dessus. Le problème de Culture Tech, c'est que vous avez deux types de documents. Les documents qui sont téléchargeables sur n'importe quel support, que ce soit un portable ou une tablette ou un ordinateur, et qui s'autodétruisent au bout de 3 semaines, donc comme un emprunt de livre dans une médiathèque classique. Là, l'emprunt se fait sur son portable, sur son ordinateur, et s'autodétruit. Donc ça pose pas de problème, puisque c'est un téléchargement qui se fait généralement à l'Institut français quand la personne va s'inscrire. En revanche, ce qui est plus problématique, c'est tous les documents audiovisuels qui, eux, sont consultables en streaming. Donc le problème, c'est que comme vous êtes à l'extérieur de l'Institut français et que vous ne bénéficiez pas de la connexion de l'Institut français, bien sûr, ça consomme énormément de bande passante sur votre portable, et là, c'est quasiment inaccessible pour beaucoup de Maliens. Donc c'est vraiment un problème économique, plus qu'autre chose, hein. C'est pas un problème de connexion. Je crois que c'est vraiment un problème économique d'avoir l'argent suffisant pour écouter, regarder ce type de document. Donc ça, c'est un problème dont on est tous conscients et sur lequel il va falloir travailler.
En tout cas, ce qui est intéressant, Patrick Giraudeau, dans cette période de crise, c'est que vous avez créé un besoin. Alors après, est-ce que vous allez continuer à faire ce type de projet numérique ou audiovisuel une fois que l'Institut pourra réouvrir?
J'espère, parce que l'objectif c'était ça, c'était de pas trouver une solution palliative pendant la fermeture, parce que c'est beaucoup d'énergie, de travail, de nouveaux contacts, une thématique de travail qu'on n'avait pas forcément l'habitude de faire, qui est très longue, hein, c'est compliqué. Voilà, donc le but c'est effectivement de continuer, de pas laisser tomber, d'autant plus que ça donne une visibilité au travail de l'Institut français, qui n'est pas seulement la programmation que l'on voit au théâtre ou lors des rencontres et des débats à la médiathèque, mais c'est tout le travail de fond, notamment avec là en ce moment avec Africa 2020, tous les artistes sur lesquels on travaille, Ibrahim Kébé dont je parlais tout à l'heure la semaine dernière, avec Mandé TV, Kalash, la pièce de théâtre, tous ces programmes sont associés à Africa 2020, et l'objectif aussi c'est d'avoir cette résonance de manifestation d'un travail de fond de l'Institut français qui n'est pas forcément visible ou moins facilement visible qu'un concert.
Merci beaucoup Patrick Giraudeau.
Merci beaucoup, merci à vous.
Plus que quelques heures encore et je vais franchir le seuil. Je serai libre comme le vent, je serai ivre comme une feuille. Encore un peu de patience, me voici hors de cette maison. Je pourrai goûter à la liberté de courir après l'horizon. Ça m'a paru une éternité d'atteindre enfin ce moment, d'aller à la rencontre du soleil et de croiser aussi des gens. Je sens comme un parfum, un autre souffle m'animer. Je lève ces verres à ma santé, le dernier jour d'un confinement.
The darkest days, and I'll be your shelter when you come the rainy days.
Des projets plein la tête, je pourrais remplir tout un livre. Le seul qui me tient à cœur, c'est de ne plus oublier de vivre. J'ai souvent égaré l'idée et j'ai eu le temps d'y penser à toutes les futilités que je n'entends plus recommencer. C'est un nouveau jour qui vient. Je veux pouvoir profiter, regarder la vie autrement, avec foi, humilité. Avant de traverser ma porte, je veux vraiment me souvenir que la vertu de toute épreuve, c'est surtout nous faire grandir. Cette leçon pour l'humanité sera sans doute sa belle séquelle, si seulement ce virus devenait le vaccin de nos querelles. D'ici, je joins ma voix aux ovations des voisins, pour remercier les livreurs, les pompiers et les médecins. Ceux qui sans gants, sans masque, ont affronté tous les risques. Avant d'avoir à redire, je remercie les politiques. Aux oubliés et à tous, pensée, force, condoléances, je lève ces verres au nouveau jour, ensoleillé de résilience.
I know I can count on you, going through the darkest days, and I'll be your shelter when you come the rainy days. This is who we are, together.
Le dernier jour d'un confiné sur RFI, ce n'est pas une annonce, mais le titre de l'artiste béninois Seminvo Lire, avec Sergio Snow qui prépare un album pour l'hiver prochain. Dans sa vie assez brève, il meurt à 56 ans, Chikayom Tamsi n'aura cessé de faire des allers-retours entre son pays, le Congo, et la France. Direction Paris pour ses études, direction Kinshasa pour travailler avec Patrice Lumumba, puis encore Paris pour rejoindre l'UNESCO. Pour autant, il est considéré comme l'un des écrivains africains, sans nuance ni réserve, l'un des plus grands. 4 romans, 3 pièces de théâtre, beaucoup de poèmes, tout en français, comme le fruit d'un héritage, comme une évidence, comme un métissage. Écoutez la voix très douce, très délicate de Chikayom Tamsi en 1980 au micro de Olivier Germain Thomas, une interrogation sur l'identité, sur l'écriture, sur l'imaginaire qui nous forge.
On ne sait pas à qui on appartient. Où l'on appartient ? Est-ce que je suis français ? Est-ce que je suis africain ? Effectivement, la question peut se poser.
Alors comment se passe en vous ce dialogue entre l'Afrique et la langue française ?
Eh bien, je devrais dire qu'il se passe comme ça se passe chez un métis. C'est-à-dire qu'il est un sang mêlé et que ces deux sangs grondent en lui et lui font faire ce qu'il fait, c'est-à-dire la production qui le caractérise. Et beaucoup de gens se sont interrogés, par exemple, tout récemment, à savoir si la littérature de langue française écrite par des Africains était une littérature africaine. Et puis d'autre part, les Français, par exemple, nous interrogent, nous demandent si réellement nous sommes représentatifs d'une littérature réellement africaine. Parce que pourquoi écrivons-nous en français ? Bien, si la question m'était posée, elle m'a été posée plus d'une fois, si j'écris en français, simplement parce que historiquement, je me suis trouvé dans une situation où je ne pouvais faire autrement que aller à l'école française, alphabétiser en français, et donc parler le français, et finalement, un jour, m'essayer à l'écrire. Voilà la situation dans laquelle je me trouve. Et je dis, cette situation, c'est une situation de métissage. Est-ce un bien, est-ce un mal, même s'il est difficile de vivre à notre époque, le métissage, ou dans la vie d'un homme, le métissage, je crois que c'est quand même l'avenir de l'humanité. Que les gens, les civilisations, les nations sont appelées à se côtoyer, donc à se donner aux uns aux autres, à se prêter aux uns aux autres, sans doute avec des pertes, mais le bilan reste à faire. Je crois que toujours le bilan sera positif.
De toutes les façons, les grandes civilisations nous montrent qu'elles sont elles-mêmes issues de métissage. Car en fin de compte, il n'y a pas une entité grecque qui vient in abstracto. La Grèce, c'est la rencontre entre différents courants qui viennent, par exemple, d'Égypte ou du fond crétois, ou qui viennent des Peuplades qui viennent du Nord. Et de même, la civilisation chrétienne, c'est une rencontre d'un fond sémitique et d'un fond grec.
C'est exact. Tous les grands mouvements culturels, toutes les grandes civilisations sont toujours nées de l'apport des barbares. Et on ne sait jamais de quel côté viennent les barbares. C'est cela qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est que, ma foi, il y ait une manifestation nouvelle qui est le produit de cette rencontre. Bon, il y a sans doute des pertes. Ça, c'est les nostalgiques. Je ne peux pas être nostalgique dans ma vie à moi. Je ne peux pas me refaire. Il faudrait que, pour être autre, il faut que j'ai moins de 48 ans et que la situation dans laquelle j'aurai moins de 48 ans soit différente de celle que connaît le pays dans lequel je suis né. Le pays dans lequel je suis né est actuellement un des pays les plus alphabétisés en langue française d'Afrique. Les enfants qui naissent maintenant parlent dès le berceau le français, donc ils le sont, tout comme moi, condamnés à parler français. Il faudrait toute une révolution culturelle pour qu'ils cessent de parler français et pour qu'une autre langue puisse s'imposer et puisse servir d'alphabétisé, d'éduquer, donc de produire une génération de diseurs, de conteurs et d'écrivains en langue française. Donc, malgré tout, je suis condamné par l'histoire à être ce que je suis. Bon. Me débattre dans cette prison-là, ça peut être très intéressant, mais je préfère ne pas me débattre et accepter le fait en me disant que, bon, à toute chose, malheur est bon.
Mais vous auriez pu refuser le donné historique et vous initier à une langue africaine et essayer de vous exprimer à travers cette langue africaine. Est-ce que la tentation vous a traversé ?
Quand bien même que la tentation me traverserait, je vous dis, il faudrait que je fasse un effort que tout un peuple devrait faire avec moi. Or, je ne puis seul faire cet effort-là. La langue n'est pas le fait d'un seul homme ou de la volonté d'une seule personne. Okay? Il faudrait que les politiques, d'abord, les États, aillent dans ce sens-là. Mais je crois que là n'est pas la question. La question, c'est de savoir, est-ce que le fait de me servir du français m'ouvre le monde, me ferme le monde, m'appauvrit, m'enrichit? De quelle manière elle m'appauvrit? De quelle manière elle m'enrichit? J'ai encore parlé d'un rendez-vous de donner du recevoir. Bon, j'accepte les termes de ce rendez-vous. Peut-être ce que j'ai à recevoir me permettra peut-être un jour de mieux retrouver le capital enfoui dans mon oubli, dans ma dépravation ou dans ma fuite en avant.
Il y a là un débat d'ailleurs assez complexe, parce qu'il est bien évident qu'une langue n'est jamais neutre. Elle est porteuse d'un héritage culturel. D'un autre côté, vous autres écrivains africains, comme d'ailleurs certains écrivains maghrébins, ou par ailleurs nous avons interrogé également des écrivains d'origine slave qui utilisent le français, apportent donc un héritage culturel tout à fait différent. Et arrive ou arrive-t-il pas à faire passer véritablement la substance, je ne dis pas la totalité, la substance du génie de leur origine à travers la langue. Alors, dans votre cas particulier?
Ça, c'est une interrogation qui est très importante. Mais malheureusement, je n'ai pas les moyens de l'amener à terme. Oui. Je triche un peu. Je triche un peu parce qu'en fin de compte, l'Afrique à laquelle j'appartiens, elle est présente en moi, je la porte bien sûr. Et si souvent mon langage, mon propos surprend, parfois même moi-même, c'est peut-être parce qu'il y a ce qu'il y a de sous-jacent dans ma conscience et qui ressort à ce moment-là. Et si je veux faire l'effort d'être systématique, alors là je n'y réussis pas. Je n'y réussis pas parce que je n'arrive pas, parce que je n'ai pas l'instrument nécessaire, je n'arrive pas à penser dans ma langue, je ne puis que penser en français, peut-être mal penser en français. Donc c'est le mot mal penser en français qui va peut-être me permettre de mieux penser le subconscient qui apparaît dans ce que j'écris et que d'aucuns, oui, et que souvent moi-même, trouve de surprenant. Je l'ai vu et quand j'ai voulu le faire dans un poème qui est réellement une traduction d'une chanson populaire, une adaptation disons. Bien mes congénères n'y se retrouvent pas, même qu'ils la chantent, ne retrouvent pas le sens qu'ils donnent à la chanson dans la langue nationale et dans la langue d'origine. La traduction en français leur paraît tout à fait surannée, ne véhiculant aucun signifiant. De même que dans une autre pièce où je reproduis l'image d'un homme qui entend une rivière lui dévoiler un crime qui a été commis sans autre témoin que les génies qui habitent ce fleuve. Mais c'est un fait culturel qui est courant, qui est véhiculé par la tradition populaire, mais qui en français, peut-être parce qu'il n'a plus l'environnement nécessaire, culturel nécessaire, semble superflu, semble en l'air. Mais dois-je m'interdire de le faire? Ça, je me demande si je dois m'interdire de le faire. En continuant, est-ce que je ne me mets pas nécessairement dans une impasse, ne me situe pas dans une incompréhension totale? Car c'est un reproche qui, par exemple, a fait ma poésie, qu'elle est obscure. Elle est obscure parce qu'elle se réfère à des signifiants et que les mots que j'utilise sont des mots d'une culture différente et qui eux-mêmes ont un substrat culturel. Alors c'est bien qu'à la limite, il y a un divorce. Lorsque j'ai dit que je suis un divorcé, c'est pourquoi j'ai dit que je suis un métis. Voilà la situation dans laquelle on se trouve quand, précisément, on n'a que l'instrument d'emprunt pour s'exprimer totalement. Et quand on n'a pas l'instrument d'origine pour s'exprimer.
Et je comprends le décalage qu'il peut y avoir, à la fois donc entre des langues et entre l'état de culture, puisque vous avez une culture qui en est un état mythique, ce qui d'ailleurs pour la poésie donne probablement une beaucoup plus grande richesse que pour nous, et que en France, le monde mythique qui était si présent au moment du Moyen-Âge est assez absent.
Disparu. Et alors, et d'autre part, bon, l'oralité qui caractérise nos civilisations, quand je l'utilise en poésie, je sais que mes congénères et amis écrivains français trouvent ma poésie un peu plus bavarde. parce qu'elle est orale, même si je l'écris. Et je ne peux pas m'empêcher d'écrire une poésie qui ne soit pas orale. Debout et passe, comme on meurt, comme on danse, sans aveu. La lame emporte un peu de la mer, vainement. J'ai l'âge des fossiles, mon mal ne guérira personne. Une nuit annule les cœurs que j'ai portés avec ivresse. Qui parle encore comme les lucioles de la mort ancienne, comme ils vécurent, comme ils s'aimèrent, l'herbe croissait, personne ne s'en doutait. La forêt m'a revêtu de nuit, sans la lumière de ce qui fait famille, de ce qui fait lien, de ce qui fait chair contre cœur tendre, de ce qui tue d'aimer. L'ami trahira et tous deux en mourront sans aveu. De braise sur mon cœur, oh donnez-moi vos yeux pour mon cœur arable, donnez-moi vos yeux pour mon sommeil. Des enfants font les fous, je retourne au trou de ma mémoire. Je retrouve mon enfance nue, pardonnez-moi mon enfance, l'herbe croissait. Je dis à l'herbe, je suis fragile comme la rosée, et l'herbe est morte sur les braises de mon cœur. Vous le voyez, j'ai la vie qui tue. Malheureusement, l'herbe croissait.
Sur un air de rumba congolaise du groupe OK Jazz, Chikaya Umtamsi en 1980, c'est une archive de la collection Visage de la langue française diffusée sur France Culture. L'œuvre complète de Chikaya est éditée dans la collection Continent Noir de Gallimard. Allez, on rajoute un mot, je dis un, mais il va y en avoir plein, avec notre linguiste patenté Jean Pruvot, de mots à mots, et bien sûr il y a des S. Bonjour Jean Pruvot.
Bonjour Pascal.
Dans vos 10 000 dictionnaires, vous vous êtes arrêté aujourd'hui sur un mot finalement très très simple, qui est le mot « jardin ».
Oui, c'est un joli mot et d'histoire assez étonnante, hein, d'étymologie particulière, parce que dans le fond, toutes les autres langues l'ont pris, « garden »,« garten » en allemand. Et en fait, quand on évoque les activités agricoles du côté du jardin, on parle des activités horticoles. Enfin, c'est là la racine, « hortus ». Gardinus, hortus, c'était le mot pour jardin en latin. Gardinus, c'est une racine germanique qui voulait dire enclos. Et c'est ce qu'on a retenu. On a retenu l'enclos, en fait. On a oublié le jardin pour retenir l'enclos. Pourquoi l'enclos? Bah, parce qu'il fallait protéger, effectivement, les plantations, les fleurs, des animaux sauvages qui allaient se régaler, et des carottes, et de toutes sortes de, des choux, qui étaient dans le potager. Puisqu'au départ, il y a quand même le jardin dit potager.
Et puis, il y a le jardin qui est le paradis et qui est un enclos aussi pour ceux qui ont mérité.
Eh bien oui, alors la racine, si vous voulez, ou la traduction latine de jardin, ça a été paradisus. Le jardin à herbe, on disait hortus, et paradisus, le paradis, c'est vraiment le sens du jardin. Et donc, quand on a évoqué le christianisme, c'est comme ça qu'on a traduit cette idée d'Éden, parce que dans le fond, le jardin était l'endroit où on se sentait très bien, donc que ce soit un paradis. Et alors, en 1571, vous avez Maurice de la Porte, dans un de ses dictionnaires qui s'appelait Les Épithètes, qui évoquait jardin, paradis, terrestre. vert, verdoyant, récréatif, herbu, etc. Donc tout ça est délicieux, et même rapporte fruits. À l'époque, on faisait des mots composés comme ça, et le jardin, effectivement, c'est l'endroit des fruits. Attention aux fruits défendus, alors là, c'est le paradis. Hein.
Jean Pruvot, est-ce que l'usage de ce mot a évolué au cours de l'histoire de la langue ?
Alors oui, parce que il y a d'abord eu bon des expressions de la mythologie, bon la religion aussi, le jardin des oliviers par exemple. Mais il y a eu aussi une évolution avec jardin d'enfants par exemple par l'allemand Froebel en 1840 et c'est la traduction de Kindergarten et qui donc désignait dans le fond des premières crèches, hein, un enseignement pour les petits enfants. Le jardin d'hiver, délicieusement décrit par les écrivains, qu'il s'agisse de Proust ou de Valérie Larbaud. Et qui est cette sorte de jardin sous serre, mais rattaché à la maison. Donc, depuis peu, il y a le jardin bio, puis il y a le jardin d'acclimatation, délicieux aussi, évidemment, pour les enfants. Et puis, les différents types de jardins. Alors, à la française, très organisé, le nôtre, ou à l'anglaise, au contraire, essayant d'imiter la nature.
Alors, on dit jardin, on dit jardiner, hein, le verbe.
Oui, alors, il y a plusieurs sens à jardiner. Le premier, c'est évidemment de s'occuper de son jardin. Mais on a aussi dit jardiner les oiseaux. Alors, quand je rencontrais ça, je ne comprenais pas bien. Mais c'était habituer les faucons en les mettant dans le jardin, en leur mettant d'ailleurs un cache sur les yeux à la présence de l'homme. Parce que le faucon est un peur, évidemment. Et pour l'habituer à cette chasse, grâce aux oiseaux de proie, eh bien, on jardinait les oiseaux. Il y avait joué à jardin madame. Jardiner galamment, j'ose à peine le dire. Hein. Il y a un poème, « J'ai mon mari qui se rigole de moi, s'en va jardinant avec maintes femmes folles, chaque jour ou le plus souvent. »
Bon, c'est clair, hein.
C'est
jardiner galamment. Est-ce qu'il y a de la menthe en votre jardin, Jean Pruvot ?
Ah, c'est une jolie réflexion sur, finalement, les dictons, où on dit qu'évidemment, il y a de la menterie dans le jardin, il y a de la menthe en son jardin. Ça veut dire qu'il a menti. Comme on dit, cela n'a pas cru en ton jardin, c'est-à-dire que c'est pas de toi. Ne fais pas un four de ton bonnet ni de ton ventre un jardinet. Bon, il y a donc force dictons qui sont absolument délicieux.
Force dictons et une citation qui écrase presque toutes les autres, c'est celle de Voltaire, il faut cultiver son jardin. Ça, c'est révision pour le bac.
Ah oui, voilà, alors c'était tous les événements sont enchaînés dans le meilleur des mondes possibles. « Cela est bien dit, répondit Candide, mais il faut cultiver notre jardin. » Bon, Voltaire, on est là dans la grande tradition, mais c'est une expression qui nous est quasiment restée. Hein.
Et qui veut dire, en fait, cultiver sa propre personnalité, sa vie intérieure, son propre champ.
Oui, et s'occuper de ce dont on peut s'occuper, être responsable de ce qui nous appartient. Et donc pas se livrer à des réflexions pour lesquelles on n'a pas de réponse. C'est en ce sens que Voltaire était, j'oserais dire, très terre-à-terre, au bon sens du terme.
Mais c'est assez de circonstances vu sa citation. Dernière chose, Jean Pruvot, pour nos amis cruciverbistes.
Ah ben alors oui, il y a le jardiniste, le décorateur d'art. Mais attention, les cruciverbistes, ils orthographient bien, d'art, A-R-E-S, des arts. Hein. Il y en a un autre que je trouve très joli. Bon, les dames vont peut-être me le reprocher. Hein. Jardinière, une belle de terreau. T-E-2-R-E-A-U. Puis alors on dit aussi que le jardinier, plus souvent sur une planche à rames que sur une planche à voile. Bon, les rames de petits pois, bah c'est le jardinier qu'il fallait deviner.
Je sais pourquoi je n'ai jamais été très bon en mots croisés. Merci beaucoup Jean Pruvot. Et à la semaine prochaine.
Merci beaucoup.
De vive voix, Pascal Paradou, programmation Louise Calédec, documentation Françoise de Lignon avec le concours de l'INA, Guillaume Ploquin, Sophie Janin. On se retrouve demain.